Bonjour, ce matin je vous invite à lire un passage de Deutéronome et pour bien le situer, je vous propose de voir ensemble quelques clés de lecture du Deutéronome puis de lire le chapitre 30. Je reprends quelques points qui vont nous aider à parler du chapitre 30. Deutéronome est à la fin de la Torah quand Moïse va mourir. Israël a été affranchi de l'esclavage en Égypte. Le peuple a passé un an au mont Sinaï où Dieu a conclu son alliance et donné une série de lois. Le peuple a ensuite passé 40 ans dans le désert. Deutéronome est le discours de Moïse avant l'entrée dans le pays promis. C'est un encouragement à la nouvelle génération qui n'a pas entendu la première loi. C'est un encouragement à ne pas imiter ses pères et à répondre à la grâce de Dieu avec amour et obéissance. Pour cela, Moïse reprend les 10 commandements qu'on trouve au chapitre 4 et le passage qui dit « Écoute Israël, Dieu est le seul vrai Dieu » au chapitre 6. Écoute est un mot-clé dans le Deutéronome. Moïse sait que la loyauté, l'amour fidèle envers Dieu est la seule manière de vivre. Écouter, dans la compréhension en hébreu, c'est entendre et réagir en obéissant. Écouter Dieu précède le fait de l'aimer et l'amour pousse à obéir à ses lois. Le Deutéronome nous montre ce lien entre écouter et aimer. Dans le Deutéronome, Moïse commence à expliquer à nouveau les lois données, à les appliquer à cette nouvelle étape pour le peuple d'Israël. L'étape de l'entrée dans le pays après l'errance. Pour Israël, il faut appliquer les lois qui étaient connues pendant leur temps de peuple nomade à un temps de sédentarité. Les chapitres 12 à 26 de Deutéronome sont les rappels des lois qui ont été dites avant. C'est le sens de Deutéronome qui veut dire seconde loi. La dernière partie du livre est constituée par les chapitres 27 à 34. C'est là où on trouve le verset « Choisis la vie », car Moïse sait qu'ils n'écouteront pas. Il est important de bien voir que la référence à la bénédiction et à la malédiction est en lien avec l'histoire de l'humanité, pas seulement de cette génération du peuple d'Israël. Ces mots de bénédiction et malédiction nous renvoient à Adam et Ève, qui ont été, eux, les premiers humains, devant la bénédiction et la malédiction. À travers l'histoire particulière d'Israël, il s'agit toujours de la condition humaine universelle. Cette lecture se retrouve dans la Torah depuis la Genèse, avec les premiers chapitres 1 à 11 qui sont bien l'histoire universelle, et les éléments universels qui apparaissent dès l'appel d'Abraham au chapitre 12, le chapitre qui démarre l'histoire d'Israël, qui dit « Tu seras une source de bénédiction, toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». On est donc devant cette condition humaine universelle, celle qui automatiquement nous fait choisir de nous éloigner de Dieu. C'est ce que Moïse dit à son peuple, « Vous allez vous éloigner de Dieu, mais il y a une espérance car Dieu promet de transformer les cœurs. » À la fin de Deutéronome, Moïse place les livres dans l'Arche de l'Alliance et meurt. Le lecteur se pose des questions devant ce qui a été annoncé. Est-ce qu'ils vont obéir ? Est-ce qu'ils vont vivre ? Les textes de Genèse à Deutéronome sont lus par des gens qui sont à l'extérieur du pays promis ou qui sont en attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu de bénir le monde entier. Chaque génération de lecteurs a, par ces textes, un appel à espérer avoir un nouveau cœur transformé qui un jour sera capable d'écouter et d'aimer véritablement. Je lis le chapitre 30. Moïse a annoncé précédemment ce qui se passera si les Israélites désobéissent ou quand ils désobéiront. Le pays promis ne sera plus habitable et le peuple sera exilé. Dieu sait que cela va arriver et Moïse peut exposer le chemin que Dieu a déjà préparé. Chapitre 30. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu lui obéis de tout ton cœur, de toute ton âme, ainsi que tes enfants, en te conformant à tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes déportés et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples parmi lesquels il t'aura lui-même dispersé. Même si tu étais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, il ira te chercher jusque-là. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que tes ancêtres possédaient et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes ancêtres. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin de vivre. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront détesté et persécuté. Quant à toi, tu reviendras à l'Éternel, tu lui obéiras et tu mettras en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol. En effet, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, tout comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres. Lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu en respectant ses commandements et ses prescriptions écrites dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» C'est une parole, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée, et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Ce texte est d'abord l'annonce d'un retour d'exil. C'est certainement un peu dur à avaler pour les Israélites qui viennent d'être libérés d'esclavage, qui ont passé 40 ans à tourner dans le désert et n'ont pas encore pris possession du pays promis. Et en même temps, si on se place du point de vue des lecteurs juifs des temps suivants, il y a une consolation, une espérance à lire ces textes et à savoir que quoi qu'il se soit passé avant, si tu reviens à l'Éternel et si tu lui obéis de tout ton cœur et de toute ton âme, alors l'Éternel ramènera tes déportés, aura compassion de toi, te rassemblera, il ira te chercher. Les versets 3 à 5. Le verset 6 nous amène à un concept dont on voit qu'il est important, la circoncision du cœur. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. Un point important et un peu obscur, nous pouvons l'éclairer de plusieurs manières. Pour les Juifs, la circoncision est le marqueur de l'alliance, de l'appartenance au peuple avec qui Dieu a conclu son alliance. Dans les premiers temps de l'Église, cette question est essentielle et ne trouve une résolution qu'après bien des débats, car les premiers chrétiens sont juifs, circoncis, et quand d'autres se joignent à eux, doivent-ils être circoncis ? Dans Colossiens 2, les versets 11 à 15 particulièrement, Paul explique ce que signifie pour les premiers chrétiens et pour nous aujourd'hui cette circoncision qui semble bien être celle dont Moïse parle ici quand il dit « L'Éternel circoncira ton cœur ». C'est le pardon et le salut. Je reviens au texte de Deutéronome. Il y a dans ce texte quelque chose d'important autour de ce verset 6. C'est déjà un langage d'alliance, une alliance est basé sur le fait que les deux parties vont avancer ensemble dans une direction commune qu'ils ont un but commun. Choisir d'écouter et d'obéir à Dieu est donc, bien loin d'être passif, un choix de participer activement au projet que Dieu propose dans sa souveraineté. Verset 6, « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. » L'alliance que propose Dieu est de changer nos cœurs pour nous permettre de l'écouter et de l'aimer vraiment, et tout cela est pour que nous vivions. Et avec Dieu, nous savons que la vie est la vie éternelle, la vie avec lui. Le texte nous entraîne à faire un lien avec Jérémie 31 et Ézéchiel 36, deux textes de la fin de l'Ancien Testament qui parlent du renouvellement de l'Alliance. Jérémie 31 nous parle du retour d'exil, du moment de consolation où Dieu ramène son peuple de toutes les extrémités de la terre vers Jérusalem, où les gens célébreront Dieu, planteront et construiront, et tous seront rassasiés et désaltérés. Le verset 33 de Jérémie 31 explique ce qu'est la nouvelle alliance que Dieu va conclure avec son peuple. « Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Ézéchiel 36 présente Dieu agissant, pas à cause du peuple qu'il a laissé pour des idoles, mais agissant pour l'honneur de son saint nom. Pour l'honneur de son nom, pas parce que le peuple serait assez fort pour revenir à Dieu de lui-même. C'est Dieu qui purifie son peuple, qui lui donnera un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est là où Dieu dit « Je retirerai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ce nouveau cœur, cette nouvelle alliance est liée au fait, cette fois encore, de respecter les commandements de Dieu et aussi d'habiter le pays promis. Et nous savons en tant que lecteurs chrétiens de l'Ancien Testament qu'il y a déjà eu un développement de ces promesses avec la venue de Jésus. Par son incarnation, sa vie et son enseignement, sa mort, sa résurrection. La nouvelle alliance a déjà commencé. Et parce que le message de Jésus, la bonne nouvelle, s'adresse à tous les hommes, de toutes les nations, notre espérance du pays promis devient celle de la restauration de toute la terre, de toute la création. Je voudrais parler rapidement du verset 7, la malédiction pour nos ennemis. « L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront détesté et persécuté. » La Bible contient des passages déroutants. Et c'est vrai en particulier de tout ce qui a trait aux malédictions pour les personnes qu'on n'aime pas beaucoup. C'est toujours perturbant de lire « Aimez vos ennemis » et de lire ces passages en parallèle. Les psaumes en particulier contiennent ces thèmes, souvent avec la suite logique. « Je suis en détresse. » Malédiction à mes ennemis, Éternel, venge-moi. Et c'est important pour nous, êtres humains, que ces choses soient dans la parole de Dieu, car il nous y est rappelé que nous sommes humains, avec nos limites et nos émotions. Il est aussi très important que le point central est que la vengeance appartient à Dieu, le Dieu bon et juste qui a un amour fidèle envers sa création. Le peuple d'Israël apprend peu à peu qui est Dieu, et nous aussi, en lisant ces histoires anciennes. Il apprend aussi ce que nous sommes en tant qu'êtres humains créés à l'image de Dieu. Arrive alors dans le texte un verset qui me paraît central ici. Verset 11, « Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. » On peut avoir cette image de l'Ancien Testament, de la loi donnée par Dieu, qu'elle est trop longue, trop compliquée, impossible à suivre dans les détails. Cependant, Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ce passage dans Matthieu 5 porte aussi sur les groupes religieux qui ont petit à petit changé la loi pour essayer de la respecter à la lettre, faisant ainsi porter un lourd fardeau sur leurs compatriotes. Ce n'était pas leur intention, mais c'est ce qui est arrivé. Le texte de Deutéronome m'invite donc à me recentrer sur le commandement fondamental de Dieu, celui qui permet que le reste en découle. Écoutez Dieu, l'aimer de tout mon cœur, revenir à lui. Et alors la partie « lui obéir et mettre en pratique tous les commandements » en découle. Mais ce n'est pas sans travail, comme on peut le constater à la lecture des livres de la loi, qui passent beaucoup de temps à expliciter ce que tout cela signifie sur des cas très concrets. Et ça ne veut pas dire que les explications concrètes soient faciles à comprendre non plus. La fin du texte, les versets 15 à 20, est une conclusion en soi. Une conclusion qui nous place dans le concret et nous donne une espérance, mais qui nous met aussi face à nos responsabilités et à nos limites d'être humain. Pour les Israélites, c'est du concret. Il s'agit de rester ou non dans le pays promis. Habiter à un endroit, en tant que groupe ou en tant qu'individu, a un sens profond. C'est ce qui ancre nos vies au quotidien. Et pour nous, cela nous rappelle que nous sommes invités à prendre part au projet de Dieu, là où nous sommes, là où nous irons. Le texte nous parle de responsabilité. C'est une responsabilité que Dieu nous donne à chaque moment de choisir entre la vie et la mort. Je suis responsable d'obéir aux commandements de Dieu, l'aimer et aimer mon prochain qui est fait à son image, quel que soit le contexte politique. Nos limites, Dieu sait déjà depuis le début de l'humanité que devant le choix entre la vie et la mort, nous ne choisissons pas nécessairement sagement. Cela se fait notamment par le fait de se laisser entraîner à se prosterner devant d'autres dieux et à les servir. Pour Israël, à ce moment, on le voit en lisant d'autres passages de l'Ancien Testament, ce danger est très proche et il tombe dedans régulièrement. Pour nous, nous n'avons peut-être pas tous les jours la tentation de suivre une secte ou une autre religion. Mais qu'en est-il des puissances et des dominations à qui on laisse du pouvoir dans nos vies et dans la société où nous vivons ? Nos limites sont aussi liées à notre humanité dans le monde non encore restauré par Dieu, un monde où la mort et la malédiction ont une place. Mais il y a une espérance, celle que Dieu prolonge la vie. Le fait d'aimer Dieu de tout son cœur, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, prolonge la vie au lieu de conduire à la mort. C'est aussi notre espérance aujourd'hui. Que nous vivions longtemps ou que nous mourions sur terre, notre espérance est en la vie éternelle, la vie avec Dieu. Nous espérons en la résurrection et la restauration de toutes choses. Nous espérons le moment où Dieu viendra habiter parmi nous pour toujours. Il habitera parmi eux et ils seront son peuple. C'est la citation d'Ézéchiel 37, verset 27, qui est reprise dans Apocalypse 21. En conclusion, j'aimerais garder ces paroles lues ce matin. Même si tu étais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, il ira te chercher jusque-là. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin de vivre. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. »